Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 11 octobre et on vous accompagne jusqu'à 6h30.
À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté.
Il fête ses 70 ans aujourd'hui. Il est à la fois l'artiste le plus discret de la chanson et la personnalité préférée des Français. Dans la partition, nous serons de retour en 1990 quand Jean-Jacques Goldman décide de former un groupe avec la chanteuse et choriste Carole Fredericks et avec le guitariste Michael Jones.
À nos actes manqués.
Fredericks, Goldman, Jones à 6h20. Dans l'actualité également ce matin, Julien.
La victoire de l'équipe de France de foot qui a battu l'Espagne hier soir en finale de la Ligue des Nations. On va évidemment y revenir dans les journaux, mais j'ai choisi ce matin de vous parler d'un événement dont on a peu parlé et qui pourtant s'annonce crucial pour notre avenir. Il s'agit de la COP 15 biodiversité qui débute aujourd'hui. Pendant une semaine, les ministres d'une centaine de pays vont négocier à distance avant de sceller un accord en avril prochain. Il se doit d'être le plus ambitieux possible car l'enjeu est là. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, menacée par les pesticides, l'artificialisation des sols, je vais y arriver, ou encore les forages sous-marins. Cette COP biodiversité doit être un tournant. On va en parler à 6h10 avec Alexandra Rankovic, spécialiste de la géopolitique de la biodiversité. Omblin,
oui.
Vous allez prononcer des mots beaucoup plus simples. On va parler du livre.
J'en ai bien peur. Et un pas de plus contre la concurrence déloyale d'Amazon, dont se disent victimes les libraires indépendants. La semaine dernière, les députés ont largement adopté la proposition de loi visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs. Autrement dit, 40 ans après la loi Lang et le prix du livre unique, place désormais au tarif plancher des frais de livraison des livres vendus sur Internet. Rendez-vous à 5h40.
Juste après, ce sera la prescription culture avec le retour de la famille la plus déjantée de France. Je vous en dis pas plus. Voilà pour une partie du programme. On commence tout de suite avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Comment s'annonce ce lundi après ce magnifique week-end ?
Ah, le week-end, il était splendide. Alors malheureusement, j'ai du changement à vous annoncer puisque les nuages sont de retour en ce lundi matin, alors uniquement sur la moitié nord. Mais si vous nous écoutez en Bretagne, en Normandie, sur le centre-val de Loire, sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, et bien voilà, dans toutes ces régions, la journée sera un petit peu plus triste, un petit peu plus grise. Les nuages seront tenace. Le ciel sera couvert toute la journée sur toutes les autres régions et principalement la moitié sud du pays. C'est vrai que le soleil sera encore bien au rendez-vous avec encore du vent au bord de la Méditerranée. Bon, alors ce matin, couvrez-vous, on a des gelées matinales. Ça y est, on y est, on est dans le dur. 0 degré à Charleville-Mézières, 1 degré à Troyes, 3 pour Belfort, 7 degrés à Paris, 14 à Nice. Et sur la moitié nord cet après-midi, il va faire frais aussi. Seulement 14 à 17 et jusqu'à 23 dans le sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info avec le premier journal de ce lundi. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le parti d'Éric Zemmour, le polémiste, veut lancer son propre mouvement politique alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle. Révélation de l'opinion hier. Et selon nos informations, le polémiste prépare déjà les législatives de juin prochain avec à la tête de cette nouvelle formation à l'Assemblée Jean-Frédéric Poisson de La Voix du Peuple. Il s'exprime ce matin sur Europe 1. Les recours en justice contre l'obligation vaccinale des soignants se multiplient. Plusieurs tribunaux doivent rendre leur décision aujourd'hui. On entendra un avocat de Besançon qui espère la levée de la suspension de ses clients. Et puis, il ramène une nouvelle coupe à la maison, la Ligue des Nations. Après une première période dominée par l'Espagne, les Bleus ont inversé la tendance et remporté la finale hier soir. Résultat 2-1 pour la France grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé. Retour sur cette rencontre en fin de journal. Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Pas encore candidat à la présidence de la République, mais Éric Zemmour fait comme s'il veut créer son parti politique. Information L'Opinion dévoilée hier, mais ce n'est pas tout. Jacques Serret, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Et ce que vous pouvez nous dire ce matin, c'est que le polémiste et ses équipes travaillent déjà sur la campagne des législatives prévues au lendemain de la présidentielle.
Oui, le polémiste veut des députés et en coulisses, l'association des amis d'Éric Zemmour s'organise pour préparer les élections législatives. L'association s'est structurée en 3 échelons, un responsable par région, un par département, un par circonscription. Des militants qui, ces dernières semaines, ont proposé à des centaines de personnes de devenir candidates aux législatives, toujours selon une règle, la règle des 3/3. Un tiers de candidats issus des Républicains, un tiers venant du Rassemblement National, un tiers de nouveaux profils, pour qu'à l'échelle du pays, les aspirants députés soient représentatifs d'une certaine union des droites. Un chantier qui a déjà bien avancé, puisque selon nos informations, les 3/4 de ces potentiels candidats aux législatives ont été trouvés. Certaines circonscriptions sont cependant volontairement laissées libres dans l'espoir de nouveaux ralliements de personnalités politiques d'envergure. En attendant, l'annonce officielle de la candidature d'Éric Zemmour se précise. Toujours selon nos informations, le polémiste sautera le pas entre fin octobre et début novembre. Message a été passé aux militants, que tout le monde soit prêt pour une opération massive de collage d'affiches la veille de son annonce.
Merci Jacques. Éric Zemmour qui prépare donc les législatives qui se dérouleront à peine 2 mois après la présidentielle. Toujours selon l'opinion, Jean-Frédéric Poisson devrait prendre la tête d'une commission d'investiture à l'Assemblée. Autrement dit, désigner quels seront les candidats investis par le futur parti d'Éric Zemmour. Jacques Serret a pu joindre le président de la Voix du Peuple. Il confirme que des discussions sont bien engagées.
Ça fait partie des choses qui sont en discussion, ça c'est exact. Maintenant, ça mérite d'être définitivement confirmé, mais effectivement, j'ai toujours dit moi de toute façon que à partir du moment où je constaterai qu'un candidat conservateur va à la présidentielle avec de meilleures chances que moi de le porter avec succès, je me retirerai pour faire campagne auprès de ce candidat. Il semble que Éric Zemmour soit dans cette situation, donc effectivement, je tiendrai la parole que j'ai prise et l'engagement que j'ai pris. Donc voilà, ensuite les modalités dont ce que vous évoquez fait partie, sont encore en discussion, mais effectivement, cet élément de commission d'investiture fait partie de nos conversations.
Jean-Frédéric Poisson, le président pour l'heure de la Voix du Peuple. Ils sont très minoritaires dans les rangs des soignants, mais font beaucoup parler d'eux.
Eux, ce sont les non-vaccinés contre le Covid, moins de 1% selon le ministère de la Santé. Suspendus, ils ne peuvent plus exercer, certains contre-attaquent et déposent des recours devant la justice pour retourner au travail. On en compte entre 70 et 80, portés notamment par maître Fabien Stuclé, avocat à Besançon.
Ce que j'entends défendre, c'est les droits des soignants qu'on a applaudis il y a un an et demi. Les gens que je vois ne représentent pas une frange marginale de ces soignants. Il ne s'agit pas du berlu ou de conspirationnistes, de gens complètement fantaisistes. Ce sont des gens qui choisissent de se poser des questions sur les vaccins qui sont aujourd'hui proposés. Donc chaque soignant suspendu exerce un recours et la question qui est posée est la suivante. Est-ce que le sésame, qui est aujourd'hui la santé publique, est celui qui permet de placer toutes les normes en dessous? C'est ça la question. Et là, on n'est vraiment plus dans le symbole. On est dans le sens de la loi de manière générale et dans le sens de la démocratie aussi, me semble-t-il.
Maître Fabien Stuclé, joint par Océane Théard, le tribunal de Besançon tranchera aujourd'hui sur une dizaine de cas de soignants suspendus.
La France lance l'offensive contre le Royaume-Uni pour sauver les droits des pêcheurs dans les eaux britanniques.
Annick Girardin, la ministre de la Mer, rencontre ses homologues européens à Luxembourg aujourd'hui, mais tous ne partagent pas le même combat. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante européen à Luxembourg. Paris veut mettre la pression et resserrer les rangs européens face à Londres, qui campe sur ses positions.
Oui, parce que pour le moment, les expressions de soutien sont assez rares. Bruxelles a juste demandé à Londres d'expliquer comment les licences des pêcheurs avaient été attribuées. La Commission européenne n'a pas haussé le ton, elle n'a pas évoqué de mesures de rétorsion, alors que pour Jersey et la zone côtière, plus de 200 dossiers français ont été rejetés. Et pourtant, indique un haut fonctionnaire, pendant 9 mois, des preuves de présence des pêcheurs les années précédentes ont été cherchées et retrouvées, jusqu'à de vieilles factures téléphoniques, par exemple. Annick Girardin va donc discuter avec les autres ministre de la Pêche à Luxembourg. Elle viendra aussi à Bruxelles cette semaine. La France a déjà menacé de réduire l'approvisionnement en électricité de Jersey, assuré par des câbles sous-marins. C'est un peu guerrier, ironise un diplomate qui n'y croit pas trop. C'est la dernière étape avant une invasion par la mer. À Bruxelles, on estime que la campagne présidentielle française explique en partie cette volonté de montrer les muscles. Sauf qu'en face, c'est la même chose. Les Brexiteurs sont prêts à tout pour faire oublier les difficultés économiques du Royaume-Uni.
Merci Isabelle Horry, correspondante Europe 1 à Luxembourg. Et Jean Castex, le Premier ministre, prévient. Si la Commission européenne ne bouge pas davantage, il saisira le panel arbitral de l'accord pour que les Britanniques respectent leurs obligations. L'ambassadeur d'Algérie de retour en France a une condition, quand Paris respectera totalement l'État algérien. Le président Tebboune rappelle qu'on oublie que l'Algérie a été un jour une colonie française. Réaction après les propos d'Emmanuel Macron, accusant au début du mois le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle.
5h07 sur Europe 1, on en vient au début du procès de Marc Machin, reconnu victime d'une erreur judiciaire il y a près de 10 ans. Il comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris pour une toute autre affaire.
Oui, il se retrouve cette fois accusé de viol et d'extorsion commis sous la menace d'une arme sur une jeune femme de 22 ans en 2018. Depuis sa libération en 2008, après 6 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, l'homme connaît un parcours chaotique, une réinsertion quasiment impossible, Gladys Laffitte.
En 10 ans de liberté, Marc Machin est retourné en prison 3 fois pour agression sexuelle ou violence sur sa compagne. Sa réinsertion professionnelle est plus que difficile. Il n'honore pas la plupart de ses rendez-vous socio-judiciaires, erre entre la rue et les hôtels sociaux. En 2014, il touche plus de 600 000 euros en compensation de son incarcération à tort, qu'il dilapide rapidement. Et ce sentiment d'injustice qui ne l'a jamais quitté, Élise Arfi est l'avocate de Marc Machin.
Est-ce qu'il y a un lien ? Moi, je pense que oui. Du jour au lendemain, on lui a dit « finalement, t'es pas coupable, tu sors de prison, on te donne de l'argent, tu passes sur tous les plateaux télé ». Des années après, on se rend compte qu'il n'y a pas de réparation possible. On voit très bien que c'est un parcours de vie qui est brisé. Il y a quasiment un destin là-dedans. Avant que ce soit Marc Machin dans le box des accusés, c'est un petit garçon à qui on a fait aussi beaucoup de mal. Marc Machin a été une victime, en fait, avant d'être aujourd'hui un auteur. Et ça aussi, il faut l'explorer, ça aussi, il faut l'affronter.
Aujourd'hui, il reconnaît les faits pour lesquels il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
Et le procès devrait se dérouler à huis clos à la demande de la victime.
On termine avec le foot et les Bleus qui ajoutent un nouveau trophée à leur palmarès, le seul qui leur manquait.
Celui de la Ligue des Nations, 3 ans après la Coupe du Monde remportée haut la main, mais un euro gâché. L'équipe de France a battu hier soir à Milan l'Espagne, résultat 2-1 grâce à des réalisations de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Mais encore une fois, les Bleus était un peu absent pendant la première heure, Jean-François Pérez.
Oui, certains ergoteront que ce n'est ni une Coupe du Monde, ni même un championnat d'Europe, mais cette victoire dans la jeune et encore méconnue Ligue des Nations avait tout d'une grande. Un scénario renversant, comme face à la Belgique, un trophée gravé au nom de la France et comme un symbole, le meilleur homme du match, auteur d'un but splendide qui a ramené les Bleus à un partout, Karim Benzema, au micro du diffuseur M6.
J'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France, aujourd'hui c'est fait. Cette équipe est très très forte, lâche jamais rien et aujourd'hui on l'a encore prouvé.
Avec 33 réalisations, le Madrilène dépasse désormais son ex-mentor Zinedine Zidane au classement des buteurs en bleu. Il est un postulant crédible au Ballon d'Or en fin d'année, tout comme Kylian Mbappé qui a fait oublier son euro raté avec un nouveau but décisif, plein de finesse. Mais il faudrait aussi citer Hugo Lloris ou encore Antoine Griezmann qui est entré hier soir dans le club très fermé des joueurs aux 100 sélections. Il y rejoint notamment son sélectionneur Didier Deschamps. On l'a pensé vacillante, la France est de retour. Prochain objectif, la Coupe du Monde 2022, pour laquelle les Bleus sont déjà quasiment qualifiés.
Jean-François Pérez, et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10 sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin. Et mon pari gagnant sera le 705 Vicky Lakshmi. D'une santé fragile, il ne court qu'à bon escient grâce aux bons soins de son entraîneur Fabrice Soulois. Et c'est ainsi que ce trotteur d'origine italienne reste sur 2 faciles victoires, le 21 août à Vincennes, puis le 27 septembre à Rouen-Mocanchy. Et je suis persuadé que le profil de l'hippodrome d'Anguin ne pourra que l'avantager, ce qui devrait lui permettre d'enchaîner sans aucune difficulté un nouveau succès. Notez bien, pour cet après-midi à Anguin, réunion 1, dans la 7e course, le numéro 5, Vicky Lakshmi.
Vicky Lakshmi, c'est noté, merci Thierry Léger. Et vous revenez dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, bon lundi matin, dans une minute, c'est le pressing de ce lundi 11 octobre.
Votre revue de presse décalée avec au menu une série à succès qui s'invite dans les cours d'école, une compagnie aérienne féministe et le culte des sondages. A tout de suite.
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon réveil. À 5h12, c'est le pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Blin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, je remarque que vous avez tous les deux des cols roulés. Ça marque vraiment l'arrivée de l'automne.
Il fait froid.
Ça y est, c'est la fin.
Les gelées blanches parlaient d'Anissa Haddadi tout à l'heure dans sa météo.
Il faut écouter Anissa Haddadi. Alors on commence avec un rapide coup d'œil sur les unes de vos journaux. L'entrisme de la Chine, une menace pour l'Occident, titre Le Figaro, qui relaie une étude passionnante de l'IRSEM sur les ressorts utilisés utilisé par Pékin pour accroître son influence à l'étranger. Dossier passionnant que je vous recommande. Il voulait comprendre la foi des autres. Un témoignage à la une de la Croix, celui de Gaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste il y a tout juste un an. Et puis, la belle victoire des Bleus, c'est le titre d'aujourd'hui en France, avec pour illustration les hommes de Didier Deschamps soulevant le trophée de la Ligue des Nations. Après, on en parlait il y a un instant, leur victoire 2-1 hier soir en finale face à l'Espagne. Voilà pour les unes. Omblin, je me tourne vers vous. Qu'avez-vous retenu comme article ?
C'est l'histoire d'un enfant de 7 ans qui vit dans une petite ville du Pas-de-Calais. Il est en classe de CE1 et lorsqu'il rentre chez lui, il raconte à ses parents le nouveau jeu auquel il a participé au moment de la récré. 1, 2, 3, soleil. Jeu vieux comme le monde, on y a joué, vous et moi.
Absolument. Ouais.
Sauf que cette fois, celui qui bouge fait semblant de tomber, comme s'il mourait, fusillé, par d'autres enfants qui, eux, font semblant d'être des tueurs. En fait, il ne joue pas à 1, 2, 3, soleil.
C'est gay, ouais.
Mais il joue à Squid Game, la série sud-coréenne qui fait un carton sur Netflix. Squid Game dans
ça, c'est la bande son.
Les cours d'école, c'est la musique, ouais. Ah qui ouais. Du coup est inquiétante et enfantine et du coup on est un peu mal à l'aise, quoi. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui en parle ce matin. Pour rappel, la série met en scène des femmes et des hommes surendettés à qui on fait miroiter une somme d'argent mirobolante. Ils doivent s'affronter à travers des jeux d'enfants à l'issue mortelle. Pour les perdants, dans cette école du Pas-de-Calais, les enfants tombent. Dans une autre, en Belgique, ils sont fouettés à l'aide d'une cordelette. C'est le média belge, la RTBF, qui a rapporté la scène. L'école a dû d'ailleurs prendre des mesures et réunir les enfants pour discuter de ce qui venait de se passer. Alors autant vous dire que l'interdiction de la série au moins de 16 ans n'empêche pas plus les jeunes d'accéder à des scènes du programme franchement choquantes. Hein. Les images et les commentaires circulent sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Alors pas de panique, le phénomène ne semble pas être très répandu, mais par sécurité quand même, un message d'alerte a été envoyé par l'Éducation nationale aux différentes directeurs académiques. Et rassurez-vous, beaucoup d'enfants...
Ce qui montre que c'est quand même pris au sérieux quand même.
Oui. Oui, parce que alors dans certaines écoles, ils jouent 1, 2, 3 soleil, mais sans violence. Et puis parfois, ils se tapent, ils se donnent des gifles, ils se fouettent avec des ceintures. C'est quand même un peu embêtant. Beaucoup d'enfants donc, ne sont pas concernés par cette violence. Donc, c'est un épiphénomène, on va dire.
C'est-à-dire pour l'instant, oui.
Ouais, dans le Parisien aujourd'hui en France. Ce matin également, le journal Les Échos évoque le succès de Squid Game, qui est en passe de devenir la série la plus visionnée sur Netflix. C'est des studios coréens de plus en plus puissants.
Et le tout grâce à une flûte en plastique.
Voilà. Et tout le monde veut désormais la fameuse combinaison rouge comme déguisement pour Halloween.
Merci beaucoup, Omblin. Martin.
Oui, ce matin, on écoute le monde changer sur Europe 1 avec cette compagnie aérienne qui a décidé de mettre fin au traditionnel uniforme des hôtesses de l'air. Fidi, le tailleur jupe-talon, en place désormais au pantalon ample et au basket. La compagnie en question s'appelle SkyUp Airlines. C'est une compagnie ukrainienne. Oui, elle est assez inconnue, mais c'est en Ukraine. Et à partir du 22 octobre, donc, elle équipera son personnel avec ce nouvel uniforme, beaucoup plus confortable, mais toujours d'un orange assez douteux. Hein. Je vous conseille d'aller voir sur Internet. Ça pique un peu les yeux. Alors pourquoi
ouais, on dirait des détenus de Guantanamo.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
Surtout si c'est ample. Ouais.
Alors pourquoi ce changement ? D'abord parce qu'il était réclamé par les hôtesses de l'air. L'une d'entre elles, interrogée par Reuters, hein, se plaignait notamment de ses pieds qui enflent en fin de vol et puis en cas d'atterrissage d'urgence. Hein. Comment être efficace avec des talons aiguilles ? C'est difficile. L'autre élément qui a convaincu la compagnie, c'est évidemment le combat féministe. Hein. Nous avons compris que nos hôtesses de l'air ne voulaient plus être sexualisées, explique la responsable marketing à la BBC. D'ailleurs, hein, l'uniforme n'est pas le seul élément du look traditionnel de l'agent de bord qui va disparaître. Le chignon aussi ne sera plus obligatoire dans les avions SkyUp.
C'est vrai, les chignons sont toujours très très bien peignés, hein, les hôtesses de l'air. Alors c'est vrai que l'image de l'hôtesse de l'air a toujours été, que ce soit avec la coiffure ou les habits, hein, hyper sexualisée.
Oui, tout à fait, avec ses mensurations obligatoires lors des recrutements et puis ses uniforme très genré pour ne pas dire sexiste. Et cette tendance, elle est encore plus exacerbée en Ukraine, selon une spécialiste interrogée par la BBC. Là-bas, l'image dominante a longtemps été celle de la femme plus axée sur son apparence physique que la femme occidentale. Mais toujours selon cette spécialiste, hein, la donne est en train de changer. L'Ukraine commence à abandonner ses traditions sexistes. Et puis, comme il est question d'égalité des sexes, hein, chez SkyUp, pas de jaloux. Les hommes aussi auront leur nouvel uniforme. Plus de chaussures, de costumes et de chemises. Là aussi, hein, place au basket et à un t-shirt.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas dans...
Une compagnie aérienne abandonne jupe et talons des hôtesses de l'air. Hein, c'est à lire sur le site de West France.
Vie, j'ai rêvé d'avoir... D'avoir les fesses en l'air.
Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Martin. Une devinette à présent. Je fais la pluie et le beau temps, même si je ne suis pas fiable à 100%, et je suis cité tous les jours dans les médias. Je suis...
Les sondages.
Absolument, les sondages. À 6 mois du premier tour de la présidentielle, ils sont partout. Il ne se passe plus un jour sans qu'on nous dise tel ou tel candidat déclaré ou non progresse ou recule. T'as vu le dernier Ipsos? Ouais, mais il ne vaut pas le BVA, regarde. Et l'IFOP, il dit quoi? Bah, que le Kantar TNS Sofres avait raison. Voilà le genre de conversation que l'on entend au quotidien dans les équipes de campagne. Les yeux davantage rivés sur les courbes des instituts que sur les programmes, quand ils existent, de leurs candidats. C'est un article du Monde qui analyse le phénomène. Jamais les sondages n'avaient occupé une place si prépondérante à quelques mois d'une présidentielle. Ils sont à la fois les arbitres et les stars incontournables de cet automne, avec un risque, celui de créer des bulles sondagières en surestimant certains scores, ce qui aurait pour effet de disqualifier des candidats et ainsi influencer le vote des Français. Et oui, parce que contrairement à la précédente présidentielle, les partis ont dans leur grande majorité abandonné le principe des primaires. Seuls les écologistes ont désigné leur candidat Yannick Jadot avec cette méthode. Pour les autres formations, soit il y a un candidat dit naturel, soit on regarde fébrilement les sondages en espérant que l'un des prétendants à l'investiture se détache. Mais ce n'est pas tout. Les sondages pèsent aussi désormais de tout leur poids dans le jeu des éventuelles alliances. À gauche, par exemple, avec pas moins de 7 candidats à l'heure actuelle, la moindre oscillation des courbes est guettée pour peser dans le rapport de force et entraîner des retraits derrière le candidat le mieux placé. C'est ainsi que, depuis quelques jours, les écolos ne se privent pas d'appeler la socialiste Anne Hidalgo à la peine dans les sondages à se ranger derrière Jadot, le tout, alors qu'on est quand même à 200 jours avant le premier tour. À droite, où les militants, les Républicains, voteront le 4 décembre pour départager les candidats, ces derniers en sont réduits à espérer que les enquêtes d'opinion influenceront le vote des adhérents. Autrement dit, c'est le monde à l'envers. Votez pour moi, non pas parce que mon programme ou ma personnalité vous plaît, mais parce que je suis bien coté dans les sondages. Et puis que dire de l'envolée d'Éric Zemmour, qui, si l'on en croit certaines enquêtes, serait en mesure de se qualifier pour le second tour alors qu'il n'est toujours pas déclaré officiellement. Est-on face à une dynamique politique factice, un emballement ou au contraire une vraie lame de fond? Impossible à dire, vu que les sondages ont une fiabilité toute relative, qui plus est à 6 mois d'un scrutin. Vous savez-vous pour qui vous allez voter en avril prochain?
Ben non, on va attendre peut-être de voir
on
les candidats.
On sait même pas qui est candidat. Ouais.
Eh bien, c'est pareil pour les personnes interrogées par les instituts. Elles ne savent pas, ouais. Et pourtant, leurs réponses et l'analyse qui en est faite sont en train de façonner l'offre politique comme jamais.
C'est un petit peu effrayant quand même.
Bah oui, ouais.
C'est un peu ça, de
définir les candidats et leur programme, ouais, à 6 mois de la
avec
présidentielle.
Avec les sondages qu'on dit pas fiables. Vous préférez Ipsos ou TNS Sofres alors vous?
Aucun des deux.
Merci Julien.
Je préfère Europe 1.
On referme le pressing. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports. À tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
Et sur Europe 1, il est 5h20. Les principaux titres de ce lundi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Le seul trophée qui leur manque, et ils l'ont. Maintenant, les Bleus ont remporté hier soir la Ligue des Nations face à l'Espagne, résultat de 1 pour la France, sur qui, encore une fois, il ne fallait pas trop compter pendant la première heure. La France, la Pologne ou encore la Roumanie, 10 pays de l'Union Européenne, signent un plaidoyer pour le nucléaire, notamment dans le Figaro Énergie, qui revêt, selon eux, plusieurs avantages. Elle permet aux pays d'être plus indépendants, joue un rôle contre le réchauffement climatique et protège les consommateurs de la flambée des prix. Les Polonais par dizaines de milliers dans les rues hier pour défendre l'appartenance de leur pays à l'Union européenne. Manifestation après la décision de la Cour constitutionnelle polonaise qui a contesté vendredi la primauté du droit européen qui pourrait marquer un premier pas vers un Polexit.
5h21, très bon réveil à tous. À présent, ce sont les initiatives en France. On met en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes et on prend ce matin, Julien, la direction de Grenoble.
Bonjour Sandra Krief.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes conseillère municipale en charge de la condition animale à la mairie de Grenoble, où depuis quelques mois, une partie des élus et agents peuvent venir travailler avec leurs chiens. Comment se passe la cohabitation?
C'est exactement ça. Donc depuis le 25 juin dernier, une partie des élus et des fonctionnaires du premier étage peuvent venir travailler avec leurs chiens. En fait, je tiens à signaler que c'est une expérimentation en fait pour l'instant. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment borné la question. On a un point d'étape en octobre, mi-octobre, et l'expérimentation va durer jusqu'au 25 juin 2022 pour faire un statut, pour savoir ce qui est à améliorer, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et jusqu'à maintenant, ça se passe merveilleusement bien. pour preuve, en fait, j'ai beaucoup de collègues d'autres étages de la mairie et puis d'autres bâtiments municipaux qui veulent aussi venir avec leurs chiens.
Donc l'idée qui veulent changer d'étage.
Oui aussi, non, qui veulent changer d'étage, mais qui veulent aussi que, surtout, et c'est mon objectif aussi, que l'expérimentation déjà soit pérennisée sur tout le reste du mandat, et que ce soit aussi affecté et possible de le faire sur tout le reste du bâtiment de l'hôtel de ville et les autres bâtiments municipaux. Et vous savez, je suis contactée très régulièrement par des entreprises privées, par du personnel qui me demande comment faire pour solliciter leur patron, leur manager. Dans les hôtels de ville aussi, c'est le cas. C'est l'exemple, par exemple, de Nice, Henri-Jean Servat, qui est aussi élu à la condition animale, qui s'est beaucoup intéressé à la question et qui devrait aussi développer ça chez lui. À Montpellier aussi, ça va sans doute être le cas. Donc c'est génial, je suis très contente.
Quelles sont les règles à respecter quand on est salarié, élu ou agent de la mairie de Grenoble pour venir travailler avec son chien à son bureau ?
Les règles à respecter, il y en a beaucoup, et ce qui est bien normal. On a travaillé pendant plusieurs mois, ça a fait l'objet d'une étude sur 8 mois. Avec le CHSCT, les ressources humaines, etc. Donc un règlement intérieur a été établi. Bien entendu, il y a des règles strictes à respecter. C'est-à-dire, par exemple, que pour l'instant, les chiens catégorisés 1 et 2 ne sont pas admis. Les chats non plus. Et bien évidemment, je dis évidemment, mais je vais m'expliquer après, les aquariums et les cages non plus. Le chien doit avoir ses vaccinations à jour. Il doit être sympa, bien entendu. Le règlement a été élaboré avec Laetitia Reich, l'éducatrice et comportementaliste canine et féline de la ville. Voilà, donc le chien doit être sympa, le chien doit avoir envie de venir et d'être là, et il doit pouvoir aussi laisser bosser un peu son humain. Voilà, un parcours très spécifique a été établi, donc à partir de l'entrée dans l'hôtel de ville jusqu'au bureau, pour ne pas croiser du monde. Des autocollants, des stickers avec une petite tête de chien qui est devant l'ordinateur ont été apposés sur les bureaux dans lesquels il y a un chien, pour que les gens qui sont dans ces bureaux ne soient pas surpris. Bien évidemment, comme c'est des bureaux partagés, on n'a pas d'open space, mais des bureaux partagés, il faut que la personne qui travaille avec la personne qui vient avec le chien soit OK, soit d'accord. Donc, pas d'allergie, pas de crainte, pas de peur des chiens. Le chien doit manger avant de venir. Il aura droit, bien sûr, de l'eau, des petites croquettes, des petites gourmandises. Il doit être sorti, bien sûr, bien évidemment, régulièrement.
Et donc, vous nous dites que ça se passe très bien jusqu'à présent, que ça suscite peut-être les convoitises d'autres agents. En tout cas, il y a une meilleure ambiance depuis que cette expérimentation est en place ?
Ah oui, carrément. C'est vraiment génial. En fait, jusqu'à ce que les médias ne s'intéressent à la question, j'avais pas vraiment conscience de l'impact positif parce que, déjà, il y a que 4 personnes qui viennent avec leurs chiens et pas toutes en même temps et pas toutes le même jour parce que c'est pas tous les jours de la semaine, 8 heures par jour. Hein. C'est des demi-journées de temps en temps quand l'élu ou bien quand le fonctionnaire a envie et il peut, quand il n'a pas de réunion. Donc, en fait, tous les chiens ne sont pas là en même temps. Les chiens ne se croisent quasiment jamais. Et en fait, quand le premier média est venu pour faire un reportage, les chiens se sont rencontrés, puis c'était l'euphorie, et puis les gens sont contents, ils sortent, ils s'expriment, ils expliquent combien ça leur fait du bien et combien ça leur apporte de la chaleur humaine et du bien-être. Ça crée vraiment des liens sur le site de travail.
Merci beaucoup Sandra Krief de nous avoir partagé cette initiative des chiens autorisés dans certains bureaux
avec
de la
plaisir.
Mairie de Grenoble, en tout cas
avec
au premier
plaisir.
Étage pour l'instant. Expérimentation en cours et qui sera peut-être, en tout cas je vous le souhaite, définitivement entérinée. Très bonne journée à vous.
Merci.
Europe Matin.
Sonic sur Europe 1, le super duo du R&B composé de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. On écoutait Skate et tenez-vous bien, puisqu'on a appris ce week-end que l'album sortira non pas en janvier prochain comme ça avait été annoncé, mais dès le 12 novembre. L'album qui s'appellera An Evening with Silk Sonic.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil sur Europe 1. Merci de passer ce début de matinée et ce début de semaine avec nous. Dans la suite du programme, votre prescription culture avec la sortie de la troisième et ultime saison de Family Business sur Netflix. Famille d'apprentis dealers, toujours aussi drôle. Ce sera dans un quart d'heure avec Marie Jiquel. Mais avant, dans 10 minutes, on va s'intéresser à la vente en ligne des livres.
Oui, instaurer un prix minimum pour l'envoi postal des livres, c'est-à-dire remettre les librairies indépendantes et le géant Amazon au même niveau. C'est la proposition de loi qui a été largement adoptée par les députés la semaine dernière. Quand aujourd'hui un libraire indépendant facture 7 euros la livraison d'un livre à son client, eh bien Amazon ne demande qu'un centime d'euro symbolique. Bientôt, cela ne devrait plus être autorisé. On y revient avec Guillaume Husson, le délégué général du syndicat de la librairie française, à 5h40.
Anissa a dit, nous avons les nez rouges, nous avons des cols roulés, nous avons des écharpes, donc il fait froid, ça y est, nous sommes en automne.
Ben oui, ça y est, nous y sommes. Alors attention, voici les températures relevées à 5 heures. Moins 1 à Aurillac, 0 à Nevers, Guéret et Épinal, 1 degré à Strasbourg, au Puy et à Nancy. Je m'en étouffe à 2 degrés, 2 degrés à Saint-Dizier, 3 à Bergerac, 4 pour Auxerre et Besançon, 5 à Mont-de-Marsan, 7 degrés à Pau, 11 à Toulon. Bon, ça va un petit peu mieux du côté de Marseille avec 12 degrés. On a 12 degrés aussi à Paris et 15 à Perpignan. Alors cet après-midi, la fraîcheur aussi au rendez-vous avec 14 degrés à Saint-Étienne, 16 à Clermont-Ferrand, 19 pour Paris et Limoges, 21 degrés à Nice et seulement 23 pour la maximale à Ajaccio. Donc ça y est, hein, on est en automne, les températures baissent dans le ciel. Moitié nord, donc au nord de la Loire, de la Normandie à l'Alsace, là c'est tout gris. Et au sud, c'est très ensoleillé.
Bah écoutez, c'est parfaitement résumé. Merci beaucoup Anissa Dadi. Très bon lundi 11 octobre à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est votre journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
L'éducation nationale se prépare à rendre hommage à Samuel Paty. Il y a bientôt un an, ce professeur d'histoire était décapité après avoir montré les caricatures de Mahomet. Commémoration nationale samedi, mais dans les collèges et les lycées, un hommage est prévu dès vendredi. Est-on forcément de gauche quand on est écologiste? Pas sûr. Les électeurs de droite y sont de plus en plus sensibles et c'est une information Europe 1. Un sondage Ipsos révèle que 92% des sympathisants LR font de l'environnement l'une des thématiques principales de la prochaine présidentielle. Un espoir dans la lutte contre le cancer du sein, deux instituts expérimentent la chirurgie en 3D permettant de mieux visualiser les tumeurs avant de les opérer. Et puis la sortie de Eiffel mercredi, un film européen qui nous plonge dans l'histoire de la construction de la Grande Dame avec Romain Duris dans le rôle de Gustave Eiffel. Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est un terrible anniversaire que l'école s'apprête à commémorer, celui de la mort d'un enseignant parce qu'il avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Samedi, cela fera un an que Samuel Paty a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine. L'éducation nationale a prévu de lui rendre hommage. Ce sera fait dès vendredi dans les collèges et les lycées. Virginie Riva.
Une minute de silence, des bougies à allumer. Le ministre Jean-Michel Blanquer a souhaité qu'un temps de recueillement soit prévu dans les établissements vendredi. Sylvie Pénicaud, proviseur à Nice, a déjà tout préparé depuis une semaine.
On va organiser en fait quelque chose dans une salle qui sera en libre accès. On a fait un montage vidéo qui va inclure la photo de Samuel Paty, l'hommage qui a été rendu par M. Macron dans la cour de la Sorbonne et un clip qui est réalisé par nos élèves d'art plastique et de danse.
Deuxième temps fort de la journée, les enseignants sont invités à en reparler en cours. Beaucoup d'enseignants disent que pour les élèves, c'est déjà quasiment du passé. Christine Guimonnet, professeure d'histoire géo.
Avec une classe de terminale, on peut partir de la manière dont l'année dernière, ils avaient vécu et ressenti l'assassinat de notre collègue Samuel Paty. Essayer de voir aussi s'ils ont conscience de ce que ça peut représenter pour leur professeur d'histoire-géographie d'avoir un de ses collègues qui a été assassiné dans des conditions qui sont absolument épouvantables.
Durant son cours, cette enseignante compte également échanger autour de la laïcité, de la liberté d'expression et de la formation à l'esprit critique.
Le ministère de l'Éducation nationale dévoilera une plaque samedi en l'honneur du professeur Paty et en présence de sa famille. La stèle à la mémoire de l'enseignant qui doit être érigée devant le collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine sera dévoilée plus tard.
On ne sait pas encore si l'écologie sera le thème central de la prochaine campagne présidentielle, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'elle préoccupe tous les électeurs.
Quelle que soit leur appartenance politique, et c'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin en collaboration avec l'Institut de sondage Ipsos, non, les électeurs de droite ne sont pas indifférents à l'environnement, loin de là. 92% des sympathisants LR estiment que l'écologie est un sujet important. Ils sont 85% à penser la même chose au Rassemblement national. Louise Salé, les candidats sont prévenus.
Eh bien oui, 2/3 des électeurs de droite tiendront compte des propositions des candidats sur l'environnement pour faire leur choix. Deuxième enseignement de ce sondage, contrairement aux sympathisants de gauche, pour réussir la transition écologique, ceux de droite ne souhaitent pas transformer le modèle économique actuel. Pour changer les choses, selon eux, il faut faire évoluer les comportements individuels, par exemple sur les déchets et la consommation des emballages et du plastique. Enfin, l'enquête nous révèle que 62% des électeurs LR sont favorables aux énergies renouvelables, autrement dit aux éoliennes, panneaux solaires et biocarburants, à condition que ces technologies soient fabriquées en France et en Europe. Un résultat en décalage avec la plupart des élus de droite, très hostiles aux éoliennes, notamment Xavier Bertrand qui en fait un combat personnel. Cette étude liste donc de nombreuses préoccupations environnementales, pas forcément reprises pour l'instant dans les programmes.
Louise Salé, journaliste au service politique d'Europe 1.
On en vient à l'ouverture aujourd'hui du procès de Marc Machin devant les Assises de Paris.
Il sera jugé pour le viol d'une jeune femme il y a 3 ans. Le procès pourrait se dérouler à huis clos à la demande de la partie civile. Marc Machin a accumulé les condamnations et les incarcérations depuis 2008, date qui correspond à sa sortie de prison après une erreur judiciaire qu'il a envoyé en cellule à la place d'un autre pour un crime qu'il n'avait pas commis.
Attention à l'inflation sur les salaires, c'est le patron des patrons qui s'inquiète d'un excès de générosité des entreprises.
L'économie ne le supporterait pas, dit Geoffroy Roux de Bézieux. Le président du MEDEF anticipe les effets d'une hausse des salaires dans le secteur des services et notamment celui de l'hôtellerie-restauration. Attention à l'effet inflationniste, cela va se traduire directement dans les prix. L'économie ne le supportera pas si ces hausses se généralisent, explique Geoffroy Roux de Bézieux, entretien dans les Échos ce matin.
L'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui le projet de budget 2022.
Budget en hausse de 12 milliards d'euros avec un déficit prévu à 4,8% du PIB l'année prochaine. Et parmi les amendements déposés, celui du député du Haut-Rhin qui propose d'étendre la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire aux chauffeurs de taxi et VTC, système qui s'appliquera prochainement dans l'hôtellerie-restauration.
Un espoir dans la lutte contre le cancer du sein, la réalité virtuelle pourrait permettre à la chirurgie de faire un progrès considérable.
58 000 Françaises découvrent chaque année qu'elles souffrent d'un cancer du sein et dans 9 cas sur 10, il faut passer par l'opération. Les instituts Pasteur et Curie viennent de mettre au point un logiciel 3D qui va révolutionner la chirurgie. Avatar Médical, c'est le nom de ce logiciel qui va changer beaucoup de choses. Afsane Essaboui.
Pour la patiente, pas de changement. On fait les examens classiques, une mammographie, une IRM. Ce que permet Avatar, c'est de transformer ces clichés sombres et souvent difficiles à interpréter en images 3D. Des images qui vont permettre aux chirurgiens d'observer la tumeur sous toutes les coutures, comme l'explique Marie Audoy, chirurgienne en cancérologie mammaire à l'Institut Curie à Paris.
Quand on met le casque, on voit comme l'avatar de la poitrine de la patiente, le relief du sein et la tumeur. Et ensuite, on peut, grâce aux manettes, faire tourner le sein dans tous les sens de l'espace, faire un 360 degrés, on peut regarder par au-dessus, par en dessous, ce qui nous permet, nous, après, de mieux anticiper notre chirurgie et surtout, ça nous permet d'avoir le moins de déformations, de la perte du volume, la perte du galbe qu'on a à cause de la chirurgie du cancer.
Et faire la chirurgie la plus précise possible, ça évite aussi l'ablation du sein lorsque ce n'est pas nécessaire ou de devoir réopérer parce que toute la tumeur n'a pas pu être retirée, ce qui arrive en moyenne encore à 1 femme sur 4.
Le logiciel Avatar a été testé dans plusieurs hôpitaux américains et français. Il devrait obtenir sa certification dans quelques mois.
Et puis on précise qu'on est toujours dans Octobre Rose, le fameux mois pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Un peu d'histoire et quelle histoire ? Eiffel sort mercredi sur les écrans, un film entièrement à la gloire de la Grande Dame.
La construction de l'un des monuments les plus célèbres du monde, film dont Europe 1 est le partenaire. C'est Romain Duris qui incarnera à l'écran l'ingénieur Gustave Eiffel, un homme dont la vie privée reste aujourd'hui encore encore assez secrète et cela n'a pas été sans poser quelques problèmes aux comédiens.
J'ai lu plusieurs livres et j'avais du mal à trouver des histoires intimes sur quel homme il était vraiment chez lui, à la maison, avec ses enfants. Donc je ne pouvais pas vraiment m'appuyer sur une vérité. Après, l'homme public, évidemment, il parle d'ego, il parle de quelqu'un qui était très 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 curieux de savoir s'il était bien cité dans les journaux, si son nom apparaissait vraiment. Et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Eiffel, la tour, alors que c'est pas le seul, évidemment, qui l'a érigée. Mais le but du film, encore une fois, c'est pas de faire vraiment un biopic très précis sur ce Gustave. On a voulu que ce soit une histoire moderne, on a voulu inventer des choses, et c'est avant tout une histoire d'amour. Et donc d'être présent dans les sentiments, dans les émotions, c'était ça le plus grand enjeu du film.
Romain Duris qui incarne Gustave Eiffel à l'écran. Eiffel, le film sort mercredi en salle et c'est un partenariat Europe 1. Le football, les Bleus effacent en partie leur échec à l'Euro avec un nouveau titre. Ils se sont imposés 2-1 hier soir face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations. But signé Kylian Mbappé et Karim Benzema.
Et quel but de Karim Benzema. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses avec Thierry Léger et ses pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 trotteurs répartis sur deux poteaux différents de départ, 2875 et 2900 mètres, j'ai fait confiance aux chevaux s'élançant en tête avec Echiano, le numéro 6, dont la parfaite condition physique est certaine, comme le prouve sa dernière tentative qui s'est soldée par une victoire le 10 octobre à Vincennes et qui, sur sa lancée, me semble capable de doubler la mise avec Héros de Joude, le numéro 9, un trotteur fiable, jamais plus loin que 6e depuis le début de l'année en 10 tentatives et qui se retrouve idéalement placé juste à la limite du recul des 25 mètres. Ensuite, méfiez-vous des numéros 3, El Fuego, qui a souvent bien réussi sur cet hippodrome d'Anguin, et 7, et Faro, certainement le plus doué, mais doté d'un fichu caractère et avec lequel ce sera une nouvelle fois une question de bon vouloir. Enfin, les numéros 14, Duc de Cristal, 16, Cadet, 10, Espoir du Noyer et 12, Duc d'Idée compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 9, 3, 7, 14, 16, 10 et 12.
Pronostic à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h39. Dans un instant, nous serons avec le délégué général du syndicat de la librairie française pour parler de l'instauration d'un tarif plancher des frais de livraison des livres achetés sur Internet, mais également de la bonne santé du marché du livre. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce. Votre matinale info sur Europe 1.
Bon réveil et bon début de matinée sur Europe 1. Il est 5h42 et on en vient à cette nouvelle joute entre les librairies indépendantes et Amazon. Si depuis 40 ans et la loi Lang, un livre est vendu en France au même prix partout, celui de la livraison est libre, bien qu'elle ne peut plus être gratuite depuis 2014. Résultat, quand un libraire exige 7 euros en moyenne l'expédition du dernier best-seller, eh bien le géant américain ne va facturer l'envoi postal que 1 centime d'euro. Mais ça devrait changer. On en parle en ligne avec Guillaume Husson, le délégué général du syndicat de la librairie française.
Bonjour Guillaume Husson.
Bonjour.
Pour lutter contre cette concurrence déloyale d'Amazon, une proposition de loi visant notamment à instaurer un tarif plancher de livraison pour la vente de livres en ligne a été largement approuvée par les députés la semaine dernière. C'est un ouf de soulagement pour vous ?
Et effectivement, oui, c'est un soulagement parce que les libraires sont confrontés depuis de très nombreuses années à ce qu'on qualifie de dumping de la part de grandes plateformes. Il faut bien avoir conscience que la particularité dans notre secteur, c'est que le livre est le seul produit sur lequel les frais de livraison à domicile sont quasiment gratuits, 1 centime d'euro. Et aujourd'hui, quand ces grandes plateformes facturent 1 centime d'euro, le libraire, vous l'avez dit, doit s'acquitter auprès de la Poste pour exactement la même livraison de 7 euros en moyenne. Vous imaginez bien que quand on paye 7 euros, on ne peut pas s'aligner sur la gratuité, parce que ça voudrait dire qu'on perd de l'argent à chaque livraison. Donc les libraires ne répercutent pas toujours ces 7 euros sur leurs clients, ils facturent plutôt des frais de port à hauteur de 3, 4, 5 euros selon leur choix, selon le poids, etc. Mais ça fait quand même une grande différence, puisque quand on est un internaute, un client, bien évidemment, on a d'un côté le choix entre 1 centime d'euro et entre 3 et 5 euros, le choix est vite fait. Donc c'est un véritable obstacle au développement de la présence des libraires sur Internet.
Que répondez-vous au directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, qui a dit que cette proposition de loi ne visait pas Amazon, mais les Français ?
Je découvre le versant philanthropique d'Amazon. Je crois qu'il faudrait être assez naïf pour le croire. Quel est l'objectif d'Amazon quand ils cassent les prix sur les frais de port, sur le livre? Amazon sait très bien que ses concurrents n'ont pas les mêmes capacités financières et ne peuvent pas faire de même. Donc l'objectif d'Amazon, il n'est pas de servir les Français, il est de capter le marché à son profit. Et une fois qu'Amazon dominera le marché, il pourra tranquillement relever les frais de port. Je crois qu'il ne faut pas se laisser berner par ces paroles. Je pense que ceux qui servent les Français, ce sont ceux qui se battent tous les jours dans nos quartiers, dans nos centres-villes, qui ont des emplois locaux, qui font des animations culturelles, qui participent à la vie sociale de nos villes, de nos bourgs. C'est eux qui travaillent pour les Français.
Un mot sur la bonne santé du marché du livre, un tiers de progression depuis le début de l'année par rapport à 2020. Donc au moment où on ressort après les confinements, on continue à lire, on continue à acheter des livres à la maison ou ailleurs.
Oui, ça c'est une excellente nouvelle. Hein. L'année 2020, bien évidemment, a été extrêmement chaotique avec des trous d'air énormes pendant les confinements, mais des reprises extraordinaires parce qu'on a constaté un engouement des lecteurs par rapport aux livres et particulièrement par rapport aux librairies. Les lecteurs sont revenus en masse dans les librairies à l'issue de chaque confinement. Et le mouvement ne se dément pas, il a un petit peu ralenti bien évidemment, mais il ne se dément pas puisqu'effectivement on est sur une tendance très positive. La rentrée littéraire sur le plan économique fonctionne assez bien, hein. On est à une progression de 6%, donc on est revenu dans des proportions plus raisonnables, mais enfin ça reste quand même une très bonne rentrée littéraire.
Et puis vous attendez la remise des prix Goncourt et Renaudot le 3 novembre qui devrait peut-être à nouveau booster ces ventes.
La remise des prix, les fêtes par la suite, puisqu'on sait que depuis plusieurs années maintenant, le livre est le cadeau numéro 1 en France. Donc je ne doute pas qu'il garde la tête de ce palmarès cette année.
Donc vous êtes plutôt confiant pour la suite. Ces chiffres qui ont été assez exceptionnels en début d'année vont potentiellement se maintenir?
Écoutez, honnêtement, on ne le sait pas. Hein. On peut réparier sur une telle reprise après les confinements en 2020. Peut aurait parié aussi sur le fait que cette tendance se poursuive, puisque on pensait qu'au moment où les théâtres, les cinémas rouvraient leurs portes, au moment où tout le monde pouvait repartir en week-end, recevoir des amis, etc., par définition, le temps de lire se raccourcirait de nouveau et qu'on reviendrait à l'étiage habituel pour notre marché. Or, il se passe quelque chose, puisqu'effectivement, on continue de lire. Est-ce que ça va durer au-delà de cette année 2021? Nous l'espérons, bien sûr, on fait tout pour, mais bien évidemment, c'est difficile de le prédire.
Et puis on en reparlera alors à ce moment-là avec plaisir. Merci beaucoup Guillaume Husson. Je rappelle que vous êtes le délégué général du syndicat de la librairie française.
Au revoir.
Au revoir, merci, merci beaucoup.
Allez, on lâche les livres un instant pour une autre passion française, les séries, c'est la prescription culture du lundi.
Avec ce matin le retour de la famille la plus déjantée de France et on en parle tout de suite avec vous Marie Jiquel, bonjour.
Bonjour Ombline et Julien.
Bonjour.
Family Business, c'est l'histoire de cette famille de bouchers reconvertis en dealers.
Oui, c'est le pari fou du fils Joseph qui se prend pour Steve Jobs ou Jeff Bezos, mais en moins visionnaire quand même. Hein.
Le cannabis va être légalisé.
Et c'est ça ton idée géniale, c'est de devenir dealer.
Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la boucherie Azan.
Vous avez compris, son projet c'est miser sur la légalisation future du cannabis en France et transformer donc l'entreprise familiale en boucherie, comme il l'appelle. Alors bien sûr, hein, cette folle aventure va mal tourner. Les Azans vont devoir se frotter aux barons de la drogue, des gros méchants qui vont vite être agacés par l'amateurisme de ces bouchers de quartier.
Alors pour cette troisième saison, la dernière, ça commence très mal pour la famille Azan, kidnappée et retenue en Amérique du Sud.
Moi je crois qu'ils se sont fait kidnapper.
Par la bosse de Gérard ?
C'est Pénélope Cavillon. Elle bosse avec des cartels depuis des années.
Monsieur Guzman, ici présent, est à la tête d'un des plus gros cartels de Colombie.
Gérard Darmon, Jonathan Cohen et Julia Piton, le noyau de la famille, ils vont devoir ruser face à leurs ravisseurs et imaginer un scénario, vous vous en doutez, un scénario loufoque et peu coûteux pour s'évader. Et même enfermé, hein, ils pensent à commercialiser de nouvelles drogues.
C'est un champignon hallucinogène. C'est un produit qu'on a développé ces dernières années avec mamie.
Et on voulait appeler ça même le Falafel SD. Falafel SD, si je nous bien punchy pour booster les ventes. Voilà.
Je vais vous laisser 15 jours pour me livrer les champis. Comme ça, j'ai tranquille les enfants de monsieur.
C'est même pas si inache.
Faut que vous les goûtiez.
cafetière qui commence à chauffer.
Oh putain, ça marche. Il délire complètement là.
Voilà, vous l'avez compris, ces anciens bouchers n'ont toujours pas adopté les réflexes des grands bandits. C'est toujours aussi drôle, hein, un humour sans limite. La réussite de la série doit au jeu dynamique et vivant des acteurs. Les répliques comiques fusent, on est presque dans de l'improvisation. Voilà, Family Business, c'est la parodie des films de gangsters. Et ce sera certainement, hein, comme les deux premières saisons, un grand succès sur Netflix. Et puis, Julien Omblin, je suis sûre que vous vous demandez ce que fument les acteurs sur le plateau pour donner l'effet de ces multiples drogues. Eh bien, ce sont des herbes de Provence brûlées. Voilà.
Oui, c'est comme le pot-au-feu de mamie, quoi, c'est ça. Merci beaucoup, Marie Jiquel, Family Business. La saison finale est disponible sur la plateforme Netflix.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Elle ne fume rien. Elle est saine comme tout. Il est 5h50 sur Europe 1, c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi avec Alban Le Prince.
Le vert, hein, d'ailleurs, l'écologie, sujet incontournable de la campagne présidentielle à gauche comme à droite. Selon un sondage Ipsos dévoilé en exclusivité ce matin sur Europe 1, 93% des électeurs estiment que c'est un thème important. Plus surprenant, il intéresse plus de 9 sympathisants LR sur 10, 85% au Rassemblement National. Éric Zemmour annoncera sa candidature à la présidentielle entre fin octobre et début novembre. Information Europe 1, alors que le polémiste veut créer son propre parti politique, révélation de l'opinion. D'ailleurs, il préparerait déjà les législatives. Dernier budget du quinquennat Macron examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée en hausse de 12 milliards d'euros. Le député du Haut-Rhin propose de défiscaliser les pourboires payés par carte bancaire aux chauffeurs de taxi et VTC, mesure qui s'appliquera bientôt dans l'hôtellerie-restauration. Et puis un nouveau trophée pour l'équipe de France de foot. Les Bleus ont remporté hier soir la Ligue des Nations. Ils ont battu l'Espagne en finale 2-1 grâce à Karim Benzema et Kylian Mbappé.
Europe Matin.
L'actualité de ce mardi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux de ce lundi. Et oui, nous sommes le lundi 11 octobre. Absolument. J'allais trop vite. C'est en France, hein, c'est votre rendez-vous chaque matin. Évidemment, un article de la presse régionale raconté par celui ou celle qui l'a écrit. Et aujourd'hui, Julien, on prend la direction de la banlieue de Lille.
Bonjour Patrick Jankielewicz.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de La Voix du Nord, où l'on découvre ce matin un dossier sur une agence Pôle emploi, pas comme les autres, celle de la Madeleine aux portes de Lille, qui est spécialisée dans les castings. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que le Nord-Pas-de-Calais, même toute la région Hauts-de-France maintenant, est une région dans laquelle se multiplient les tournages de films et de séries. Alors, pour les plus connus, Le Baron Noir, le film Dunkerque, évidemment, mais qui ne pouvait pas se tourner ailleurs, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, L'Absente, Capitaine Marlowe, HPI, Germinal. Alors, tout ça est tourné dans la région. Mais du coup, les auteurs de séries ou de films ont besoin de beaucoup de figurants, à tel point qu'une agence de Pôle emploi de la Madeleine, donc effectivement à proximité de Lille, s'est spécialisée dans la recherche des figurants.
C'est vraiment l'endroit incontournable pour tous les tournages dans les Hauts-de-France, ce Pôle emploi. Il faut passer par là pour trouver les figurants dont on a besoin.
Il y a évidemment déjà des agences de casting qui travaillent sur des sujets très, très précis, mais en tout cas, les demandes passent par cette agence Pôle emploi. Alors, par exemple, dernièrement, ils ont passé une annonce pour la recherche d'une petite fille rousse pour jouer le rôle d'Audrey Fleurot, petite, dans HPI. 350 personnes ont répondu. En fait, l'agence Pôle emploi fait un premier tri avec les agences de casting souvent, et puis après il y a un travail qui est fait à nouveau avec les réalisateurs pour s'assurer que vraiment les personnes sélectionnées sont les bonnes et pour faire le choix final.
Et les agents ne se contentent pas uniquement visiblement de filtrer les candidatures, puisqu'on apprend dans l'article que ce Pôle emploi a ses propres salles de casting.
Oui, ils se sont vraiment spécialisés dans cette recherche effectivement de figurants. La région de France est vraiment une terre de tournage. Je crois que c'est la troisième région de France en termes de production de séries ou de films, donc c'est assez énorme. Bon, tout le monde pense bien sûr à Bienvenue chez les Ch'tis, mais il se trouve qu'il y a plein d'autres tournages qui se font chez nous, alors pour plein de raisons. On avait interrogé des réalisateurs à une époque et ils nous expliquaient que d'abord il y a la variété des territoires, c'est-à-dire que vous avez chez nous vous avez des forêts, le plat pays, mais aussi des collines et puis la mer évidemment avec des plages magnifiques, des falaises, des grandes villes, mais aussi des villes très touristiques comme Berne qu'on voit dans Bienvenue chez les Ch'tis. Donc il y a une vraie variété de paysages. Et puis, il y a aussi une particularité, c'est que la région Nord-Pas-de-Calais, à l'époque c'était la région Nord-Pas-de-Calais, donc le conseil régional, avait créé une agence qui s'appelle Pictanovo, qui est à Roubaix et qui est spécialisé justement dans le développement de ces créations audiovisuelles dans la région, qui permet de faire rayonner la région vraiment auprès des producteurs partout en France. Puis il se trouve en plus que Lille, en tout cas la région, est à une heure de TGV de Paris, donc ça simplifie aussi les tournages. Ça fait que la région est vraiment devenue un pôle d'excellence en termes de tournage de séries et de films.
Merci beaucoup Patrick Jankélévitch de nous avoir présenté ce dossier à lire donc aujourd'hui dans La Voix du Nord. Très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil sur Europe 1, il est 5h58 et voilà le programme de la prochaine demi-heure.
C'est le début aujourd'hui d'un événement crucial pour notre avenir, la COP 15 pour la biodiversité. À ne pas confondre avec la COP 26 sur le climat qui aura lieu le mois prochain à Glasgow. Pendant une semaine, les ministres d'une centaine de pays vont négocier à distance avant de conclure un accord en avril prochain. Cela peut paraître, je le sais, terriblement barbant dit comme ça et pourtant les enjeux sont colossaux. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Les pays du monde entier vont-ils accepter de réduire l'usage des pesticides, d'arrêter de subventionner des secteurs de l'économie qui détruisent la biodiversité? On en parle à 6h10 avec Alexandra Rankovic, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la géopolitique de la biodiversité. Et puis juste après, votre partition, ma chère Omblin.
En 1990, il décide qu'il ne va pas continuer sa route tout seul, mais au sein d'un trio.
On saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres. Caché.
Jean-Jacques Goldman sort un album avec Carole Frédéric et Michael Jones. On va revenir sur cette association qui a, dans un premier temps, laissé perplexe et son label et la presse. La partition dans 20 minutes.
Mais avant, la météo sera-t-elle entre gris clair et gris foncé, ma chère Anissa Dadi?
Eh bien, gris foncé ce matin, Julien, sur la moitié nord du pays, gris clair dans l'après-midi et alors tout jaune sur la moitié sud. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait résumer cette journée. C'est vrai que des côtes de la Manche jusqu'au nord-est ce matin, c'est très très couvert. Alors cet après-midi, on aura le retour de quelques petites éclaircies sur le nord-ouest. Et puis sur la moitié sud, alors prudence ce matin avec quelques brouillards entre le Val-de-Saône et le sud-ouest. Et puis cet après-midi, ça sera très lumineux avec le soleil qui l'emporte. Le Mistral se lève dans le sud jusqu'à 70 km/h. On se couvre, surtout les premières gelées matinales sont là. 4 à 9 degrés en moyenne ce matin jusqu'à 15 au bord de la Méditerranée. 13 à 16 cet après-midi sur la moitié nord et jusqu'à 24 dans le sud.
Elle n'a même pas relevé ma référence à Jean-Jacques Goldman.
Si, évidemment.
Bien sûr que tout le monde, la France entière.
Mais
oui.
Bah, il faut le dire alors dans ce cas-là.
Bravo.
Merci beaucoup.
Julien.
Merci
encore
beaucoup Anissa Dadi.
Parfait pour vous.
Vous écoutez Europe 1, encore un matin avec nous. Très bon réveil à tous, c'est votre journal. Il est 6h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Terminé les emballages plastiques pour les fruits et légumes. Le décret est publié demain pour une interdiction le 1er janvier prochain. Côté producteur, place aux alternatives, notamment pour les produits les plus fragiles. Il avait été victime d'une erreur judiciaire en 2012. Le voilà de retour sur le banc des accusés. Mais cette fois, il a reconnu les faits. Marc Machin comparaît aujourd'hui pour le viol d'une jeune femme. Et puis Europe 1, salué par le prix Bayeux des correspondants de guerre. Récompense attribuée au reportage de Margot Ben, correspondante à Kaboul. Extrait à la fin de ce journal. Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Des pommes en barquette, des bananes sous cellophane ou des poivrons dans un sachet plastique. Autant d'exemples de suremballage dans les rayons de nos supermarchés. Le 1er janvier, c'est terminé pour une trentaine de fruits et légumes. Le décret sera publié demain selon une information du journal du dimanche. Élise Dangean, producteurs et distributeurs ont donc quelques semaines pour pouvoir s'adapter.
Oui, même si le mouvement est déjà en marche, hein, vous l'avez forcément constaté dans vos supermarchés, le plastique reste encore très présent dans les rayons fruits et légumes. Son remplacement s'échelonnera jusqu'en 2026 car il faut trouver les bonnes alternatives pour chaque produit et notamment les plus fragiles comme les framboises par exemple. Et c'est là tout le problème. Selon Jacques Rouchausset, président des producteurs de légumes de France, la filière dans son ensemble n'était pas prête avant 2025.
On a mis un petit peu, si vous me permettez l'expression, la charrue avant les bœufs. Et on veut toujours être les premiers de la classe, soit, mais c'est un vrai casse-tête pour nos entreprises.
Cela va demander du travail aussi aux distributeurs. Il va notamment falloir trouver une solution pour différencier le bio du non-bio sans emballage plastique. Et le carton n'est pas forcément la bonne solution, dit Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
On rend les produits moins visibles
et donc moins attractif. Donc le risque qu'il y a, c'est que le niveau de vente baisse à court terme parce qu'on verra tout simplement moins les produits.
Producteurs et distributeurs bénéficieront d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle et écouler leur stock d'emballage.
Élise Dangean du service Société d'Europe 1 et a noté qu'après cette période de tolérance, les producteurs et distributeurs toujours adeptes du suremballage risquent jusqu'à 15 000 euros d'amende.
C'est une drogue inodore, incolore et surnommée la drogue du violeur. Il s'agit du GHB et les plaintes se multiplient depuis la rentrée.
Un poison liquide, indétectable, paralysant que les agresseurs mélangent dans un verre d'alcool le plus souvent. Ces dernières semaines, plusieurs jeunes femmes en ont été victimes lors de soirées étudiantes. Des signalements à Montpellier, Cherbourg ou à Tours où s'est rendu Thibaut Hue pour Europe 1.
Il y a quelques jours, dans ce petit bar discret du centre-ville, une étudiante est droguée sans s'en apercevoir. Trou noir, elle perd toute lucidité, mais ses amis, présents à la soirée, la raccompagnent chez elle. Le lendemain, son analyse de sang est positive au GHB. Benjamin, le gérant, était derrière le comptoir ce soir-là.
Ça m'a vraiment choqué. Je me suis senti encore une fois responsable et coupable. Et le fait que ça arrive chez nous, c'est très dérangeant. On a embauché du personnel pour densifier notre équipe, notre présence de dissuasion aussi. On a annulé la plupart de nos événements, du coup, pour vraiment limiter l'affluence. Et on préfère clairement réduire notre chiffre d'affaires et augmenter au mieux la sécurité de nos clients.
Dans la ville, certains établissements propose désormais un film plastique à poser sur le verre avec un trou pour la paille. Pas de quoi rassurer ces jeunes filles pour qui l'ambiance s'est tendue dans les bars.
Ça me fait très peur, enfin, j'ai pas envie que ça m'arrive ou que ça arrive à mes copines, donc je fais vraiment attention.
Ça me fait vraiment peur d'être totalement inconsciente et de tout oublier. Et je vérifie toujours mon verre et si jamais je le perds de vue, ne serait-ce qu'une seconde, je le vide et je change, je reprends un autre.
Depuis la rentrée, le phénomène s'est aggravé puisque rien qu'au mois de septembre, 7 plaintes ont été déposées. Tours, Thibaut Hue, Europe 1.
Près de 10 ans après son acquittement, Marc Machin de retour sur le banc des accusés, cette fois dans une position bien moins favorable.
L'homme victime d'une erreur judiciaire en 2008 avait passé 6 ans en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Il comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris pour viol sous la menace d'une arme, escroquerie et violation de domicile. Une réinsertion ratée pour ce trentenaire au parcours chaotique. Gladys Laffitte.
En 10 ans de liberté, Marc Machin est retourné en prison 3 fois pour agression sexuelle ou violence sur sa compagne. Sa réinsertion professionnelle est plus que difficile. Il n'honore pas la plupart de ses rendez-vous socio-judiciaires, erre entre la rue et les hôtels sociaux. En 2014, il touche plus de 600 000 euros en compensation de son incarcération à tort, qu'il dilapide rapidement. Et ce sentiment d'injustice qui ne l'a jamais quitté, Élise Arfi est l'avocate de Marc Machin.
Est-ce qu'il y a un lien ? Moi, je pense que oui. Du jour au lendemain, on lui a dit « finalement, t'es pas coupable, tu sors de prison, on te donne de l'argent, tu passes sur tous les plateaux télé ». Des années après, on se rend compte qu'il n'y a pas de réparation possible, qu'on voit très bien que c'est un parcours de vie qui est brisé. Il y a quasiment un destin là-dedans. Avant que ce soit Marc Machin dans le box des accusés, c'est un petit garçon à qui on a fait aussi beaucoup de mal. Marc Machin a été une victime, en fait, avant d'être aujourd'hui un auteur. Et ça aussi, il faut l'explorer, ça aussi, il faut l'affronter.
Aujourd'hui, il reconnaît les faits pour lesquels il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
C'est une récompense qui, chaque année, salue le travail des meilleurs correspondants de guerre. Le prix Bayeux est attribué à l'une des journalistes d'Europe 1, Margot Ben, correspondante à Kaboul.
Une voix qui, depuis l'été, témoigne du quotidien des Afghans sous le régime taliban. Bien avant la chute du gouvernement, elle nous racontait ses villages devenus des terrains minés. Son reportage récompensé a été diffusé dans l'émission Les Carnets du Monde sur Europe 1.
Des mines sous les routes, mais aussi des engins explosifs artisanaux cachés dans les maisons, les jardins et les champs. Le district n'est plus qu'un immense terrain miné.
Je n'ai jamais vu ça. Dans tout le pays, en 40 ans de guerre, autant de mines et d'engins explosifs concentrés en un seul endroit.
Engoncé dans le siège d'un Humvee, le colonel Mohamed Rafik Afran scrute le chemin qui mène au dernier village qu'a pu atteindre à ce jour l'équipe de déminage.
Restez bien au milieu de la route.
Le bord de la route est un défilé de squelettes d'acier. Ici, un taxi a sauté sur une bombe il y a 2 jours. Là, c'est un autobus qui a explosé.
Un extrait du reportage de Margot Ben à Kandahar, en Afghanistan. Vous le retrouvez en intégralité sur Europe1.fr.
Et c'était le journal de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Et ce matin, Martin, la France se réveille avec un nouveau trophée dans son armoire.
Oui, les Bleus ont battu l'Espagne hier 2-1 en finale de la Ligue des Nations. Après une première mi-temps poussive, les joueurs de Didier Deschamps se sont fait punir à l'heure de jeu. Mais pas le temps de gamberger. À peine une minute plus tard, le grand bonhomme de cette finale, Karim Benzema, remettait les compteurs à zéro sur une merveille de frappe enroulée. Et puis à 10 minutes du terme, c'est Kylian Mbappé qui crucifiait les Espagnols sur un but validé par l'assistance vidéo, mais qui n'a pas fini de faire parler de l'autre côté des Pyrénées. 3 ans après la Coupe du Monde et 3 mois après l'échec de l'Euro, les Bleus empochent un nouveau trophée, certes moins prestigieux, mais Karim Benzema ne boudait pas son plaisir.
J'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est fait. C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère, parce que cette équipe est très très forte. Là, jamais rien, et aujourd'hui, on l'a encore prouvé. Je pense que c'est le signe des grandes équipes, surtout. Ne pas paniquer, patienter, attendre le bon moment, et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin du match, et on a réussi à mettre ces 2 buts.
Karim Benzema au micro de nos confrères de M6.
Hier, c'était aussi la dernière course cycliste de la saison, Martin.
Oui, et c'est un Français qui s'impose. Arnaud Démare remporte Paris-Tours après une très belle course au milieu des chemins de vigne. C'est la première victoire française sur la classique des feuilles mortes depuis 2006. Et Frédéric Guédon, après une saison difficile, marquée par son abandon sur le Tour, ce succès a un goût particulier pour Arnaud Démare. Écoutez.
Vraiment beaucoup d'émotions, parce que voilà, on sait ce que j'ai traversé ces derniers temps, où pas de réussite, pas forcément... les jambes comme je le voulais, et puis aujourd'hui c'était une journée vraiment idéale, avec un sprint à l'arraché, je voulais vraiment pas me louper, j'ai tout mis et puis vraiment très très heureux quoi.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Eh bien, double dose de rugby. Hein. 15 d'abord, le Stade français s'évite une crise. Les Parisiens ont battu Clermont hier soir 22-14. Ils ne sont plus derniers du top 14. Et puis à 13, hein, je vous en parlais vendredi, des Dragons catalans, seul club français de Super League. C'est désormais révolu puisque Toulouse a assuré hier sa montée après sa victoire contre les Anglais de Featherstone. Et puis un peu de F1 pour finir, Julien. Valtteri Bottas s'impose hier au Grand Prix de Turquie. Au championnat du monde, hein, la bataille fait rage puisque Marc Verstappen a repris la tête avec 6 petits points d'avance sur Hamilton.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Martin Lange.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous, on va s'intéresser dans un instant à la COP15 biodiversité qui débute aujourd'hui. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h11, bon début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Elle a été reportée à plusieurs reprises à cause de la pandémie, mais cette fois ça y est, la COP15 biodiversité débute aujourd'hui. Les ministres d'une centaine de pays vont dans un premier temps négocier à distance avant la signature d'une déclaration commune en avril prochain en Chine. On en parle, Julien, avec Alexandra Rankovic, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la géopolitique de la biodiversité.
Bonjour Alexandra Rankovic.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce matin à quelques heures du début de cette COP15 biodiversité, à ne pas confondre avec la COP26 sur le climat qui doit s'ouvrir le mois prochain à Glasgow. Deux événements qui ont des objectifs intimement liés mais qui n'ont pas la même méthode, on va y revenir. Alors pour qu'on comprenne bien, quel est l'enjeu principal de cette COP15?
L'enjeu principal, il est de renouveler le cadre international qui existe pour la biodiversité. Ça fait 2 décennies. Qu'il existe, même si on en parle moins effectivement que les engagements climat, mais ça fait 20 ans qu'il existe des objectifs assez ambitieux au niveau international pour freiner l'érosion de la biodiversité. Les derniers objectifs en date, les objectifs dits d'Aichi, du nom de la préfecture où ils ont été signés en 2010 au Japon, eh bien ils ont expiré en 2020. Et donc là, un enjeu très important, c'est de venir combler ce vide qui existe maintenant au niveau international pour la biodiversité.
Alors pour revenir aux objectifs que vous venez de citer, il y en avait 20 pour la période 2010-2020 et aucun d'entre eux n'a été atteint.
Aucun d'entre eux n'a malheureusement été atteint en totalité, effectivement.
Alors si on rentre un peu dans le détail de cette nouvelle COP, il va y avoir une vingtaine de sujets discutés pour, je cite, « vivre en harmonie avec la nature à l'horizon 2050 avec des objectifs intermédiaires pour 2030 ». Lesquels concrètement?
Aujourd'hui, dans la dernière version du texte, on a 21 cibles d'action pour 2030 et qui touchent en fait à de très nombreuses facettes du problème. C'est même assez complet, il faut le dire, et ça ajoute beaucoup, bien sûr, de complexité dans ces négociations. Donc vous avez à la fois des cibles qui vont porter sur des sujets dont on a l'habitude de parler autour de la biodiversité, par exemple l'extension de la surface des aires protégées sur la planète ou l'amélioration de l'intégration de la biodiversité dans l'aménagement du territoire ou encore la restauration des écosystèmes. Mais vous avez aussi beaucoup d'objectifs qui vont toucher à l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est sur la table, vous avez une proposition de réduction de 2/3 de l'usage des pesticides d'ici à 2030. Et vous avez aussi tout un ensemble très important de cibles liées plutôt à la mise en œuvre et notamment à la mobilisation des financements internationaux qui touchent aux engagements des États à faire le ménage dans leur politique publique et dans les
autrement
aides
dit,
économiques.
Voilà. Les subventions d'État accordées au secteur néfaste à la biodiversité, on parle de quoi là exactement?
Les derniers chiffres de l'OCDE, c'est 800 milliards de dollars annuels de subventions néfastes et en particulier dedans beaucoup de subventions à l'agriculture intensive, industrielle et également aux énergies fossiles et puis de manière plus ou moins directe aussi à la surpêche par exemple.
Alors la grande différence avec la conférence mondiale sur le climat, c'est que l'accord final de cette COP 15 ne sera pas contraignant. Aucune obligation pour les États de se conformer aux objectifs. On peut encore se permettre d'avoir ce luxe-là alors qu'on a 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction.
On peut plus se permettre beaucoup de luxe, effectivement, vous avez bien raison. En toute rigueur, l'accord sera contraignant dans le droit international, mais il ne sera pas obligatoire, il n'y a pas de sanctions. Néanmoins, il y a deux éléments très importants à avoir en tête. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'existait pas dans le monde de la biodiversité de mécanisme de suivi assez sérieux, donc de rendez-vous politique pour parler régulièrement d'où on en est dans les actions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises. Et donc ça, c'est un chantier dans les négociations en cours et c'est un des plus difficiles. Donc il y a besoin de mettre la pression de la part de la société civile et de tout un tas d'acteurs pour que ça avance. Deuxièmement, ce qui sera très important, un petit peu comme l'accord de Paris, en fait, où c'est pas tellement, je dirais, déjà il n'y a pas de sanctions prévues non plus, mais c'est la prise en main de ces décisions-là par l'ensemble des acteurs derrière, dans leur juridiction nationale, dans même, pourquoi pas, différents types de procès pour une action ou autres types d'actions légales qui peuvent être entreprises pour forcer un petit peu plus la mise en œuvre, où on peut mettre de l'espoir, mais tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut absolument connecter ce type de décision avec les discussions économiques qu'il y a alentour, on n'arrivera pas, en fait, à régler le problème. Et on sait qu'on a à peu près 70% des bateaux qui sont impliqués dans la pêche illégale au niveau mondial, qui sont financés par de l'argent qui a transité par des paradis fiscaux. Au Brésil, on a 68% des capitaux étrangers investis dans le soja et l'élevage de bœuf, donc parmi les premiers facteurs liés à la déforestation, qui sont passés par des paradis fiscaux. Donc ce qui se passe dans ces grandes messes, ces grandes discussions internationales sur l'environnement, climat et biodiversité, n'est pas déconnecté de ce qui se passe par ailleurs dans le reste du monde. Et donc tant qu'on n'aura pas trouvé et mis la pression tous pour qu'il y ait une plus grande cohérence politique entre ces différents sujets, on ne parviendra pas à avancer suffisamment dans l'atteinte des objectifs qu'on se donne dans ces grands traités.
Merci infiniment, Alexander Rankovic, d'avoir été avec nous ce matin pour le lancement aujourd'hui de cette COP 15 biodiversité. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po et co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène, c'est aux presses de Sciences Po. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
6h17, vous restez avec nous dans la partition Jean-Jacques Goldman, Carl Fredericks, Michael Jones, à tout de suite.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi avec Alban Leprince.
On savait le sujet incontournable chez les Verts, l'écologie selon un sondage Ipsos dévoilé ce matin par Europe 1. Le thème est important pour 93% des électeurs, une proportion qui ne varie presque pas, quel que soit le bord politique. Plaidoyer pour le nucléaire signé par 10 pays dont la France dans une tribune publiée notamment par le Figaro. Les signataires estiment que le nucléaire permet aux pays d'être plus indépendants, joue un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique et protège les consommateurs de la flambée des prix de l'énergie. Ça y est, il n'y a plus un trophée qu'ils n'ont pas. Les Bleus ont remporté hier la finale de la Ligue des Nations grâce à une belle victoire face à l'Espagne 2-1. Début signé Karim Benzema et Kylian Mbappé.
On en vient à votre partition, Omblin, qui nous ramène ce matin à la fin des années 80, quand Jean-Jacques Goldman décide de ne plus voir son seul nom inscrit sur la pochette de ses disques.
Il veut désormais l'associer à ceux de Carl Fredericks et Michael Jones.
Ça ressemble à la sagesse, à ces pays qu'on signe un jour, juste au prix de nos jeunesses, sans trompette ni tambour.
On ne connaît pas vraiment les causes de ce changement de cap dans sa carrière.
Est-ce la volonté de retrouver l'émulation artistique au sein d'un groupe, cet effet de bande qu'il a connu lorsqu'il était membre 10 ans plus tôt de Taifong ?
Excellente question, Julien. Lui raconte en tout cas qu'après 60 chansons, il a peur de se répéter. Il veut quelque chose de neuf et le mélange des voix, eh bien, ça le travaille depuis un moment.
Mais en fait, travailler avec Carole Fredericks et Michael Jones, ce n'est pas vraiment du neuf pour lui.
Non, effectivement, il avait rencontré Michael Jones à l'époque de Taifong et Carole Fredericks l'accompagne depuis quelques années en tant que choriste sur scène et en studio. Et surtout, ils viennent de passer 18 mois ensemble sur les routes. Alors disons que la collaboration Fredericks-Goldman-Jones, jusqu'ici naturelle, devient désormais officielle.
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand?
Dans un premier temps, la maison de disques de Jean-Jacques Goldman n'est pas vraiment enthousiaste à l'idée de le voir être une simple composante d'un trio.
Mais vous imaginez bien qu'on ne refuse rien à la grande vedette du moment. L'album Fredericks Goldman Jones sort le 28 novembre 1990 et le succès est immédiat. La presse, en revanche, est plus mitigée, ne sachant pas vraiment à quel produit musical elle a affaire. C'est un groupe qui n'a pas de nom et Jean-Jacques Goldman est l'unique artisan des chansons, que ce soit les musiques, la production et l'écriture, excepté pour les textes en anglais.
Rarement un album a fourni autant de singles.
6 chansons sur 10 sont parues en CD de titres et ont tourné sur les ondes radio. Après Nuit et son atmosphère intime mystérieuse, son clip en noir et blanc, le deuxième extrait est une chanson bien plus lumineuse et joyeuse. C'est l'arrangeur Eric Benzi, friand de mélodies et de rythmes des Caraïbes, qui inspire à Jean-Jacques Goldman la musique. Quant aux paroles, le chanteur s'est souvenu d'une discussion entre amis où chacun faisait la liste de ce qu'il avait loupé dans sa vie.
Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osé, oh, 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 à nos actes manqués. À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ses douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventées.
À nos actes manqués par Fredericks Goldman Jones en 1990 et aujourd'hui, ce 11 octobre 2021, Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans.
Et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Omblin. Restez avec nous. Votre matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27. Très bonne matinée sur Europe 1 et on vous dit à demain 5h.
Et votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien. Bonjour Omblin.
Bonjour.